Musique.
Le Nova Club.
Shaking.
you for letting me be myself again. Et très franchement, ça fait manifeste hein, ces paroles aussi, quoi.
Totalement. Merci de me laisser être qui je suis. Quoi. Voilà, je suis plus noir que les blancs, plus blanc que les noirs, etc.
Pas mal, cette phrase.
Non, il y avait aussi c'est un groupe paritaire aussi. Il y avait des femmes aussi. Tu vois, c'est ça aussi qui était super fort.
Revoyez des vidéos quand tu vois le groupe débarquer sur scène. Bon, les 60s, 70s, de toute façon, tout est monumental quand tu vois les.
Ouais, mais c'est le premier à apporter une touche de psychédélisme. Je veux dire, sans lui, George Clinton le dit, sans moi, Funkadelic Parliament, sans lui, j'y aurais pas pensé. Prince,
évidemment.
Il y en a plein.
Outcast pour les plus récents.
Outcast, voilà. Tribe Called Quest, D'Angelo. D'Angelo.
Et ce mélange blanc-noir, ce mélange aussi, alors c'est pas le seul à prendre des drogues hein, et à faire Woodstock.
Non, mais
et tout ça, quoi.
D'expérimentation musicale, mon petit que Brian Wilson, tu vois, lui aussi, enfin, ce que tu disais sur le premier morceau, là, sur le sample de LL Cool J, c'est le premier à vraiment à mettre ça en avant en disant non, mais moi j'ai pas envie de ressembler au groupe trop gentillet, donc ouais, un gros look d'afro et des shows fantastiques. Il a notamment fait une tournée après 76, ça va plus trop bien niveau drogue, tout ça. George Clinton le prend avec lui, bon, ils font des tournées d'enfer, notamment en se défonçant, mais c'est des tournées mémorables musicales parce qu'ils jouent ensemble. Sly Stone fait la première partie et après c'est Funkadelic Parliament.
Et aussi ça marche, c'est-à-dire autant le premier album marche pas trop, autant là déjà c'est des tubes.
C'est des tubes et en gros l'explosion arrive avec Woodstock. Il fait Woodstock et là il défonce tout.
J'ai joué hier Hot Fun in the Summertime, qui est un single qu'il avait fait pour Woodstock, et effectivement Woodstock est un petit peu le tournant. Je dis ça parce que Beach Boys sont peut-être plus connus dans tous les films hollywoodiens, t'as du Beach Boys, c'est des choses comme ça, mais quand tu vois les positions dans les charts de Sly Stone, c'est vraiment des grosses
c'était une icône. On a parlé, on disait voilà, il y avait Elvis, il y avait je sais plus qui d'autre, mais lui il en faisait partie. Alors, on a parlé d'une icône en 69.
Les deux, on y viendra, sont bien effondrés dans la drogue et tout ça. Peut-être lui a été beaucoup plus, bon, je sais pas si blacklisté est le mot, mais un peu ignoré pendant des années quand même. Bah,
mis sur le banc. Alors lui, on pourra en parler, pourquoi plus lui que d'autres, peut-être parce qu'il est noir aussi, mais bon bref. Mais c'est vrai qu'il est pas mal mis sur le banc et critiqué, et à chaque fois on entend que de parler de ses, et pour l'avoir vu en concert.
C'était pas bien.
Bah ouais, c'est un des pires, malheureusement des pires.
Alors j'avais vraiment bien, c'est pas les années 70, c'était pas vieux.
Non, mais pourtant récent, oui, tu vois, et apparemment il a arrêté la drogue en 2019, et moi je l'ai vu dans un état pitoyable, le pauvre.
C'était quelle année toi, Olympia,
c'était à l'Olympia, c'était dans les années 2000, je pense, quelque chose comme ça, et j'étais super content à l'idée, mais extrêmement déçu, et j'ai eu un peu la même sensation à Gil Scott-Heron, qui était très malade, très très usé, quoi. Et on voyait quelqu'un de vieux, usé, avec le groupe autour qui essaye de le ménager, de rattraper le coup et tout.
Bah tiens, je fais une parenthèse, parce que toi, Marc, aussi, t'as vu Brian Wilson à l'Olympia aussi, d'ailleurs, hein, c'est ça?
J'ai vu Brian Wilson à l'Olympia à l'occasion de sa tournée pour Pet Sounds.
Okay.
Il a joué Pet Sounds pour la première fois.
Oui, 30 ans après, enfin 30 ou 40 ans. Ouais. Et par contre, le concert était réussi.
C'était magnifique. C'était un vrai cadeau. C'était une messe pour des gens réunis qui étaient venus de très loin pour certains, et un moment inoubliable. Vraiment génial, hyper bien réalisé.
On revient à Brian Wilson dans un instant, un des derniers encore tubes avant qu'on arrive à Where the Riot Going On, qui est un des albums vraiment mythiques de Sly Stone.
Et Stand aussi.
Qu'est-ce qu'on écoute là justement?
On va écouter Everyday People justement, qui a été samplé par Arrested Development.
Et qui est un des anthèmes dans les paroles, dans ce qu'il dit.
Antiraciste, etc.
Sly and the Family Stone. Sly Stone dans le Nova Club, Sly and Family Stone, on va y revenir évidemment. On revient sur Brian Wilson, on est à peu près deuxième moitié des années 60, hein, là, on était donc Sly Stone début 67, là on était sur les albums juste après. Du côté de Brian Wilson, il y a le chef-d'œuvre qui arrive, quoi.
Pet Sounds, ouais. Donc il a arrêté de tourner, il s'enferme en studio avec le Wrecking Crew, donc principalement Carol Kay à la basse. Et Al Blaine à la batterie.
Donc, c'est-à-dire pas les Beach Boys, quoi.
Non.
De toute façon, ils jouaient déjà.
Eux, ils sont en tournée.
Ah oui, ils sont en tournée.
Donc, c'est génial. C'est eux, ils font rentrer l'argent sur la route. Mmh. Et lui, il s'occupe de créer la suite.
Et c'est toujours le père qui les dirige encore à cette époque ? Si tu le sais, hein, parce que je te pose peut-être d'école. Hein, mais...
Je crois.
Ouais, d'accord.
Donc, okay. C'est pour ça que ça sonne aussi bien. Moi, c'est vraiment un de mes albums préférés ever. Et donc, c'est parce que c'est pas les musiciens du groupe. Quoi.
Ouais, non, c'est des énormes bêtes qui jouaient avec Elvis, qui faisaient toutes les sessions de Los Angeles.
Et puis il y a ce single qu'on va écouter après la pause qui est un des sommets des Beach Boys. Il n'est pas sur Pet Sounds, hein, Good Vibration, il est sorti à côté. Hein,
il est entre Pet Sounds et Smile. Mm-hmm. Et c'est un morceau qui a coûté le prix d'un album à fabriquer, je ne sais plus combien d'heures dessus.
Ah oui, ça c'est important quand même à dire.
Hein. Ça a coûté un bras, mais je pense que ça a été rentabilisé.
Mais ça a coûté un bras parce que Brian Wilson refait des prises.
Et aussi parce que c'est ce qu'on appelle une pocket symphonie, c'est-à-dire en 3 minutes ou je sais plus combien de temps il dure, il y a énormément de plans, de variations, de bouts de mélodie qui changent. Enfin, c'est une sorte de vision accélérée d'une petite symphonie, quoi.
Moi, et un des trucs, et c'est pareil, je l'ai déjà dit, je le redirai, mais parce que je trouve ça passionnant dans l'histoire de la musique, ce moment où tu fais de la musique qui n'est pas possible de faire en live. Et c'est vraiment dans les années 60, fin des années 60, nous, on n'écoute que ça aujourd'hui. On n'écoute que de la musique qui n'est pas possible en live. Enfin, un morceau de techno ou un morceau d'hyperpop, va t'amuser à le faire en live avec des instruments, c'est absolument impossible. Bah, les premiers qui ont fait des choses comme ça, c'est Sly Stone ou Brian Wilson. Derrière la pause, Cold Vibration. Écoutez-le comme si vous le connaissiez pas. Et vous verrez comment c'est fou quand même de tout, de l'intro, de tout, toute la construction. À tout de suite.
Le Nova Club. Nova. Radio Nova.
Nova.
Bouygues Télécom.
Qu'est-ce qu'on a ?
Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées.
Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record.
En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de 200€ de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150Go et plus. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99€ par mois, engagement 24 mois, soit 242€ au lieu de 442€ après remboursement et reprise de votre mobile. Conditions en boutique.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390€ par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le festival Golden Coast, l'événement rap XXL, est de retour du 5 au 7 septembre au Parc de la Combe à la Serpent à Dijon. Retrouvez en concert Nino et Niska, IAM, MC Solar, SCH, Vald, Oxmo Puccino et de nombreux autres artistes. Infos et réservations goldencoastfestival.com.
Le 21 juin, Radio Nova célèbre la musique au festival. L'événement musical organisé par Renault pour le lancement de Renault 4 e-tech électrique. En direct du Chalet des Îles, David Blot délocalise son Nova Club et tend son micro aux artistes qui vont faire vibrer cette fête de la musique. The Blaze, Cassius ou encore Isaac Delusion. Le Nova Club XXL, samedi 21 juin, de 20h à minuit sur Radio Nova.
Bonjour, c'est François Moreau des Inrecuptibles. En couverture, Damso, le rappeur bruxellois se livre comme jamais dans une interview XXL avant la sortie du dernier album de sa carrière. Également au sommaire, les obsessions ciné de Juliette Armanet, une virée punk avec Aymeric Lompré et un dossier de 16 pages sur Pulp, le retour le plus attendu de l'année. Des Inrecuptibles, votre magazine culturel en kiosque.
Nova M Astropolis. Du 4 au 6 juillet, le festival de musiques électroniques revient secouer Brest avec 75 artistes, 10 événements dont une nuit mythique et magique au manoir de Carwal, avec Marcel Detman, Pink et Imogen, Buzz EP et Olympe 4000, Palmstrax, Gwendoline, DJ Gigola, Interplanetary Criminal et bien d'autres. Billetterie sur shotgun.live.
Ce vendredi, jackpot record Euromillion de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ?
FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Nova M, le rendez-vous de l'été de Valentine Cadic. Au cœur des JO de Paris 2024, Blandine arrive de Normandie pour voir les épreuves de natation et retrouver sa demi-sœur. Habituée au calme, elle découvre un Paris bouillonnant, fait des rencontres, se perd, hésite et tente de tisser des liens dans une ville en effervescence. Le rendez-vous de l'été, en salle le 11 juin.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire ?
DS Automobile présente
le Weekend DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ces technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Pensez à covoiturer.
Alain Afflelou présente
1, 2, 3, 3 paires pour bronzer, lire ou sortir, pour le plaisir ou pour offrir.
Cet été, Chin Chin d'Afflelou, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. La troisième, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien.
Nova, partenaire de Nosso Barco Tambor Terra, une installation monumentale de l'artiste Ernesto Netto au Grand Palais. À partir du 6 juin, parcourez cette installation multisensorielle composée de crochets tissés à la main, d'écorce, de terre et d'épices dans la nef du Grand Palais. Une expérience gratuite, unique en son genre, avec des concerts, des ateliers et bavardages pour tous les âges. Grand Palais d'été, à partir du 6 juin, une programmation rayonnante, un événement Nova. Plus d'infos sur grandpalais.fr.
Le grand mix.
Le Nova Club. Le Nova Club. Le salon musical de Radio Nova.
De Radio Nova.
Sunlight plays upon her hair.
enfin dans la prod, c'est quand même complètement dingue, hein, les Beach Boys.
Je crois que c'est quasiment un an d'enregistrement, il me semble, hein, pour faire un morceau.
Et alors attends, parce qu'on l'a dit tout à l'heure qu'il avait quand même, je sais pas si c'est sourd complètement, mais une oreille qui ne fonctionnait pas. Donc oui, il était plus mono que stéréo, parce que de facto, eh ben, il n'entendait pas la stéréo. Et c'est quand même, pour ce type qui a révolutionné les prises de son et des choses comme ça, c'est assez génial de voir.
Génial. Et il
bon,
avait...
C'est pas mieux que Beethoven, mais c'est pas loin, quoi.
Ah, franchement, enfin, j'ai pas la compétence pour juger, mais
non,
pour moi, c'est
je blaguais, mais
non, mais c'est l'équivalent, enfin, je pense, hein, pour son époque, c'est un mec incroyable qui avait un don, qui avait de la musique dans la tête, qui avait besoin de la sortir et qui l'a sortie. En fait, il a trouvé un moyen de la sortir et ça lui a fait du bien de la sortir parce que ça le rendait fou.
Ouais, ok. Good Vibration, c'est comme un tube. Autant Pet Sounds marche pas très bien, autant Good Vibration, oui.
Good Vibration, c'est un énorme tube. Pet Sounds, c'est déjà...
Quelle année alors, exactement?
67.
Donc même année, parce que 67, c'est le premier album du Velvet, c'est Sgt. Pepper des Beatles, c'est le premier album des Doors, c'est le premier album de Hendrix, et pour moi, c'est souvent le tournant, c'est le premier album de Sly Stone, on en parlait il y a quelques instants, c'est vraiment l'année tournant où justement tout ça devient plus cérébral quand même. Quoi.
Il commence à expérimenter en studio en fait, tout simplement, hein. Donc il fait ses couches de voix, comme on l'écoutait tout à l'heure, et puis aussi il mélange sur la même piste un son de guitare, un son de batterie, ou de piano, enfin il fait des expérimentations, il essaie d'imiter Phil Spector, et tout seul dans son coin en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que lorsque ses comparses rentrent de tournée et qu'il leur fait écouter le résultat, la réaction n'est pas enthousiaste le groupe. Surtout Mike Love, le chanteur hyper cousin. Conservateur, cousin, qui dit non mais nos fans vont jamais comprendre.
Lui il veut chanter du surf. Et
voilà, lui il veut rester dans le créneau, valeur sûre. Et le label aussi est un peu déçu, du coup ils font une sortie... on va dire soft release, comme disent les anglo-saxons. Ils mettent pas le paquet, sauf les Anglais, qui montent une campagne marketing assez maligne. En gros, ils définissent Brian Wilson comme un génie. Et les oreilles des Anglais font que l'album marche. C'est le seul pays au monde où ça marche.
Okay.
Et bon, c'est toujours les mêmes les meilleures oreilles sont en Angleterre. Anglaises.
Oui, alors précisons que jusqu'à là, les Beach Boys, ça marche très bien. Donc pour cet album qui est le plus mythique, un des plus mythiques de l'histoire du rock, c'est un échec, quoi.
Exactement. C'est devenu mythique avec le temps, mais à l'époque, c'est un échec, oui.
Ok. On a ouvert, quand on a appris le décès de Brian Wilson, on a ouvert avec un des sommets de l'album qui est God Only Knows. Donc on va pas il est bien sur Pet Sounds, hein, rassure-moi.
Ouais, c'est le morceau qui avait bluffé Paul McCartney.
Oui, c'est ça. Ouais,
soi-disant le plus beau morceau du monde, selon
Et là, il commence à travailler sur. Alors, il y a plus mythique que Pet Sounds, et c'est comme le Dune de Jodorowsky ou des choses comme ça. Il finira par exister cet album, mais ça sera dans les années 2000. Mais il y a cet album qui travaille pendant des années, c'est Smile, qui ne sortira pas sur le moment. Quoi.
Trop barré pour sortir, donc c'est resté dans l'équivalent d'un disque dur de l'époque. Personne n'a voulu le sortir. Lui, ça a coïncidé avec le moment où il a pu abuser des drogues, donc il n'avait même pas la capacité d'imposer sa vision. Et donc, en fait, Smile a servi de réservoir pour toutes les années 70. Tous les albums des Beach Boys des années 70, en fait, repartaient de Smile. Donc, on peut tracer Smile dans toute la décennie.
C'est-à-dire que l'album n'est jamais sorti, mais c'est des bases pour des morceaux.
Voilà, les autres du groupe, parce que bon, apparemment Brian était assez légumique. Donc, pas très capable de faire quoi que ce soit.
On a un extrait d'interview où il parle de sa période.
Ah ouais, elle est pas mal ça. Parce que,
justement, c'est à peu près cette période.
Exactement, écoutez-le, Brian Wilson.
I was confined in my bedroom. I was taking drugs. I was snorting cocaine, which I don't. Agree with. I mean, I don't get behind anyone snorting cocaine. It's a very bad drug, but I did, and I did it. I had a lot of money. Of course, I'm a millionaire, and I was able to get a hold of all these drugs, you know, and they fucked. I was able to get a hold of all these drugs, and they messed me up. They messed my mind up.
C'est mignon, hein, il s'est repris, il dit fuck, et puis il s'aperçoit qu'il est à la télé, donc il reprend sa phrase quand même.
C'est plus dur de dire fuck à la télé que de parler de drogue, quoi.
Oui, c'est ça qui effectivement. C'est l'époque où il traîne avec Charles Manson et tout, mais c'est pas lui, c'est Dennis.
C'est Dennis, ouais. Dennis, donc le frère. Le séducteur qui un jour, je crois, par une fille avec qui il était en bail, a rencontré Charles Manson, et donc Charles Manson a commencé à se frotter les mains, quoi. Tiens, je peux approcher les Beach Boys.
Charles Manson était parolier aussi, il rêvait d'être chanteur aussi.
Il était musicien. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde voit Charles Manson, mais enfin, le mal incarné. c'est clairement. Mais il y a eu ce lien, il y a un album d'ailleurs de Charles Manson,
ouais.
C'est ça. Hein.
Ouais, je n'ai pas écouté depuis longtemps, mais de mémoire, il est pas mal. Ouais. Et c'est aussi le centre, enfin, un des sujets du film de Tarantino, Once Upon a Time in
Bien sûr. On voit pas les Beach Boys. Par contre, il y a un autre film qu'on peut recommander. Tout le monde m'en parle sur Brian Wilson.
Love and Mercy,
où il est joué par Paul Dino et John Cusack.
Exactement.
À deux âges différents.
Et ça met vachement en avant sa créativité et sa bipolarité. Et c'est un film.
Je suis pas sûr qu'il est bipolaire. Je suis pas sûr que tu l'emploies. C'est pas schizo plus qu'il a été dans les. Bref, on va pas rentrer dans la médecine et aucun de nous n'est compétent pour dire ça exactement. Là, il entendait des voix quand même. Non, c'est marqué bipolaire.
Diagnostiqué bipolaire et schizoaffectif.
Waouh, schizoaffectif, ça lui va bien. C'est horrible à dire, oui, mais ça fait vraiment la musique des Beach Boys, quoi.
Dans sa période traversée du désert de la drogue, il quittait sa maison en peignoir et on le retrouvait au bord d'une autoroute. Les gens partaient le chercher. Enfin, il y a vraiment une vie triste pendant les années 70.
Oui, et en plus tout le monde l'attend pour qu'il fasse des tubes.
Les Beach Boys donc se servent dans le Reservoir Smile, qui n'est jamais sorti, pour agrémenter tous leurs albums des années 70. Ça marche beaucoup moins que les années 60. Donc quelque part leur thèse se vérifie. Mais quand même, ils génèrent de l'argent, ils ont des bookings en concert, mais à la fin des années 70, le réservoir est vide. Et là, ils se disent, faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on.
On aborde ce sujet un peu plus tard. Et quel morceau on s'est déterminé sur un morceau?
C'est quoi? Serves Up.
Ah bah oui, merveilleux. Alors, il y a plein de versions de ce morceau.
Ah, il y a énormément de versions. De toute façon, les Beach Boys, c'est sans fin. Si on va en ligne sur Soul Seek, c'est hallucinant ce qu'on trouve sur les Beach Boys. Donc, Surf's Up, voilà, typique morceau phare de Smile, qui n'avait pas été utilisé, donc sorti dans Smile, et qui a servi dans l'album Surf's Up, il me semble de mémoire, quelques années plus tard, dans les première moitié des années 70, il est sorti. Dans cette version qu'on va écouter, mais il existe plein de versions.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a le nouveau, le surf, il retrouve le début de carrière. Écoutez ça, c'est merveilleux. The diamond necklace played the pawn, hand in hand some drummed along, woe to a handsome man at baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pit in the pendulum drum. Taken me, dim chandelier awakened me to a song dissolving the dawn. The music hall, a costly bow. The music all is lost for now to a muted trumpeter's swan. Towers, the hour was struck, the street quicksilver moon, carriage across the fog, two step to lamplight cellar tune. Of the wine, the dim last toasting. While at port adieu done, a choke of grief.
what's up, board a tidal wave, come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's
le Nova Club. We'll be right back.
qu'est-ce que ça sonne. On a deux génies de la musique. Bon, enfin, c'est banal ce que je dis, mais c'est des vérités. Bah, donc je rappelle qu'on rend hommage à Sly Stone et Brian Wilson. Je me suis gouré hier au début. Hein. C'est Brian Wilson qui était un peu plus âgé. S'il était mort.
De quelques mois.
S'il avait attendu 9 jours avant de mourir, il aurait eu 83 ans. Voilà. Voilà. Et donc il a un
aucun
peu
effort.
Plus, aucun effort. Un peu plus âgé que Sly Stone. Mais je rappelle que ces deux mythes absolus de la musique sont morts cette semaine au même âge de 82 ans. On essaye, en tant que fan, de rendre hommage aux deux. On arrive à cet album qui reprend en plus l'actualité de folie, évidemment, des riots going on.
C'est vrai que c'est troublant d'actualité avec ce qui se passe en Californie en ce moment avec la loi anti-immigration de Trump. There's a riot going on. Bon, il y a une émeute qui arrive. On est en 71, l'album est enregistré.
Il a déjà fait des tubes, il a fait Woodstock, il est connu.
En fait, en 69, voilà, c'est une icône, c'est une grosse star après Woodstock et il se perd un peu là-dedans. Il se perd parce que il devient, voilà, il a énormément d'argent, énormément de fans,
énormément de drogue,
comme Ray Hudson. Mais parce que c'était un mec quand même assez timide, hein, c'est quand même, enfin, il a plein de points communs, je trouve, avec Wilson. C'est un mec assez esselé qui, il est de la Bay Area, donc autour de San Francisco, Oakland, tout ça. Il achète une énorme maison à Los Angeles, où il y a tout le temps du monde chez lui, mais il est quand même super seul, paradoxalement.
Typiquement le truc des stars avec leur dealer. Quoi,
et par rapport à son histoire de noir, parce qu'il est entouré de blancs à ce moment-là, il est pote depuis de nombreuses années avec un espèce de loulou de quartier qui sort de prison et lui dit viens vivre avec moi. Et donc il l'emmène avec lui. Bon, et ça devient un peu son homme de main, ce mec s'appelle Booba, je crois. Ça devient son homme de main, et avec toutes les drogues qui vont avec. D'ailleurs, le mec, quand il parle de ça, il dit quand je suis arrivé dans la maison, il y avait que des blancs, j'ai cru que j'étais un pot du Ku Klux Klan, quoi. J'ai pas compris les bails. Et finalement, bon, ça prouve que le mec était quand même très seul.
C'est pas l'album où il s'enferme pour tout faire.
Et voilà. Mais il s'enferme pour des raisons assez pratiques, c'est-à-dire que une partie du groupe ne le supporte plus, en a marre de ses défonces sempiternelles, et ce fameux batteur qui s'appelle Greg Enrico, donc qui commence en 66 à 17 ans, en a marre et claque la porte, se barre. Et comme il a plus de batteur, qui était quand même un sacrément batteur, il achète une boîte à rythme, une des premières boîtes à rythme,
bien sûr.
Et qui décompose lui-même, en faisant des petits rythmes, parce qu'il l'a fait pas, bon, c'est espèce de boîte à rythme où il y a marqué salsa, machin, tu peux faire tes petits rythmes, mais lui, il la bricole.
C'est les premières, hein,
c'est voilà,
les
toutes c'est toutes premières. Et il commence à faire ses prods. Et j'ai un trou, je cherche un artiste, out of my head, un artiste nord-américain qui a fait beaucoup de morceaux comme ça.
Prince, mais non, c'est
non,
pas
non,
ça
non,
que
non,
tu veux
non,
dire.
Non,
mais...
non, non.
Ah, Shuggy Otis.
Voilà, c'est... merci. Oh, merci. Voilà, okay, Shuggy Otis, voilà, c'est un peu dans la même, c'est un peu, ça donne un peu ce.
Avec des boîtes à rythme. Tu t'entends presque pas que c'est des boîtes à rythme aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas de batteur, quoi. Et donc là, c'est
dingue. Musicalement, il y a de la recherche. Il joue
finalement,
tous les instruments.
C'est dingue les points communs entre Brian Wilson et Sly Stone.
Il joue tous les instruments de son album. Peu de temps après, t'as Larry Graham, le fameux bassiste de génie qui s'en va créer son groupe aussi. Et lui se trouve tout seul avec aussi, je pense, il a l'espèce de cul entre deux chaises dans la mesure où les Noirs lui disent qu'il est devenu trop connu, trop blanc. Il y a même les Black Panthers qui lui demandent, qui essayent de le raqueter de 100 000 dollars. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 100 000 dollars? Ils savent pas quoi lui répondre, si ce n'est que, vas-y, donne-nous des thunes, t'es blindé, t'es une icône américaine, bah donne maintenant, prouve-nous que t'es vraiment un noir. Donc il y a tout ce truc de, il y a un morceau d'ailleurs qui s'appelle Love and Hate à ce sujet-là, où il sait pas comment, il est tellement sur les feux de la rampe et sous les projecteurs qu'il sait pas comment se placer. Il est très esselé, il se réfugie dans la drogue et il met 2 ans et demi à faire cet album,
ce qui est beaucoup à l'époque,
ce qui est énorme à l'époque. Il y a Clive Davis qui est vraiment le mec qui a découvert notamment Ray Charles ou plus tard Whitney Houston, et ses équipes qui utilisent ça a pris 2 ans et demi. Mais c'est ce qu'il fallait pour que le génie ressorte son album. Mmh. Il communique un peu là-dessus.
C'est génial, parce que là aussi, c'est un tournant dans la musique. On parle des musiciens comme ça. C'est des génies, c'est des œuvres hyper importantes. 10 ans avant, on ne l'aurait pas fait. C'était des trucs pop qui passaient à la radio et tout le monde s'en foutait un peu. Là. On a changé de ton. Quoi.
Et cet album, sur plein d'aspects, est un carton. Parce qu'il y a la com aussi derrière qui le suit. Mais même au niveau de la pochette, on voit un drapeau américain. Alors, il n'y a pas sa gueule.
Il n'y a pas sa gueule, il n'y a pas de nom, il n'y a rien.
Il y a juste un drapeau américain. américains, et au lieu que ce soit des étoiles, les États américains, c'est des espèces de petits soleils. Et on pense à l'album Stankonia, le quatrième album de Doubtcast, qui est à peu près pareil, avec un drapeau noir. Après, il y a tous les noirs américains. Je pense à Beyoncé avec son album Country aussi, où elle exhibe un drapeau américain. Il y a un collage photo qui a servi,
ils adorent les collages, les Beatles aussi.
Voilà, les Beatles faisaient ça aussi. Ça a été fait après. Common aussi a fait un super album qui s'appelle Electric Circus aussi, qui a inspiré un peu de ça. Voilà, de bandes de personnes, ses enfants, les amis. Parce qu'il y a le morceau, il y a le fameux morceau de Family Affair qui est
alors on l'a joué, on va pas le rejouer.
Mais bon, c'est un des albums cultes.
Désolé, les amis, il nous reste 17 minutes, moins la pub.
C'est cultissime. That's the Right Going On. Et juste avant, il a fait Stand aussi. On en a parlé vite fait avec les deux people. Mais c'est les deux grands disques de Sly avant la fin.
Avant la fin, c'est ça. Après, ça va moins vendre.
Et après, il n'y aura plus aucun membre du groupe, quoi. Il va prendre d'autres musiciens et ça perdra un peu de sa saveur, même s'il y a des morceaux qui sont quand même superbes. Il y a notamment un album là qu'on
aura peut-être le temps si on y revient.
Mais ces deux albums.
Encore un point commun, même si Brian Wilson a de l'avance, ils ont le même âge, mais Brian Wilson, ça starie un petit peu avant. Sly Stone rentre dans les années 70, mais ils ont les deux, je vous regarde les deux là, hein, ils ont des pannes monumentales, quoi.
Pendant des années, ils font rien.
Terrible, quoi. Pour Sly Stone, c'est carrément presque 40 ans de compétition.
Il bosse beaucoup avec d'autres, en fait. Il écrit avec Ike Turner, il écrit avec Bobby Womack, il écrit avec Buddy Miles, mais sortir des trucs en son nom, c'est un peu plus rare et c'est souvent confidentiel.
D'accord. Et Brian Wilson,
il passe les années 70 sans sortir de son lit, comme on l'écoutait avec votre archive tout à l'heure. Et donc, à la fin des années 70, début des années 80, je ne me souviens pas de la date exacte, les Beach Boys font une réunion de crise.
Alors attends, cette histoire, il faut qu'on mette la pub, elle est géniale. Pardon. On en parle, c'est l'arrivée du psy dans la vie de Brian Wilson et c'est fondamentalement important. On fait une dernière pause, elle est très courte, mais Edwin, rassure-nous. Et juste, on reprend le micro derrière pour vous raconter ça et on réécoute un Brian Wilson, un Sly Stone. À tout de suite.
Le Nova Club. Nova.
Nova M, la première édition du Lubéo Festival. Du 4 au 6 juillet, cap sur le sud Luberon à Ville-d'Or pour une parenthèse électro en plein air. 3 jours de live sous les oliviers avec Miel de Montagne, Joaquin Pastor, Vendredi sur Mer, Nathalie Duchesne, Mira et bien d'autres. Info lubeofestival.com.
Bonjour, c'est François Moreau des Inrecuptibles. En couverture, Damso, le rappeur bruxellois se livre comme jamais dans une interview XXL avant la sortie du dernier album de sa carrière. Également au sommaire, les obsessions ciné de Juliette Armanet, une virée punk avec Aymeric Lompré et un dossier de 16 pages sur Pulp, le retour le plus attendu de l'année. Les Inrecuptibles, votre magazine culturel en kiosque.
Nova M Astropolis. Du 4 au 6 juillet, le festival de musique électronique revient secouer Brest avec 75 artistes, 10 événements dont une nuit mythique et magique au manoir de Carwal. Avec Marcel Detman, Pink et Imogène, Buzzy P et Olympe 4000, Palmstrax, Gwendoline, DJ Gigola, Interplanetary Criminal et bien d'autres. Billetterie sur shotgun.live.
Nova M, le rendez-vous de l'été de Valentine Cadic. Au cœur des JO de Paris 2024, Blandine arrive de Normandie pour voir les épreuves de natation et retrouver sa demi-sœur. Habituée au calme, elle découvre un Paris bouillonnant, fait des rencontres, se perd, hésite et tente de tisser des liens dans une ville en effervescence. Le rendez-vous de l'été en salle le 11 juin.
Nova.
Le Nova Club.
Club. Eh ouais, il nous reste 13 minutes. Bon, alors, il a un rôle peut-être dans la musique, il y a rarement eu un psy aussi important que celui qui a rencontré Brian Wilson. Raconte les circonstances, parce que c'est assez génial, Marc.
Donc c'est raconté dans l'autobio de Brian Wilson.
Wouldn't be nice.
Wouldn't be nice. Mm-hmm. Voilà, qu'il a sorti à la fin des années 80, je crois. Donc la source de Smile est en tari, car ils se sont abondamment servis dans cette source. Brian Wilson, il est toujours en panne d'inspiration. Il est obèse, il est drogué, il sort pas de chez lui, dans son lit tout le temps.
Il est millionnaire, mais il sort pas de chez lui.
Voilà, mais quand même les Beach Boys, qui sont très business conscious, à un moment organisent une réunion de travail sans lui, et ils décident de réalimenter c'est leur seule solution en fait finalement, de remettre Brian en inspiration. en agissant sur sa santé. Mm-hmm. Et donc il lui balance un psy nutritionniste, je sais pas quoi, un slasher, dans les jambes. Et lui, sa mission, il est grassement payé par les Beach Boys pour remettre en forme Brian Wilson. Et donc il lui fait un régime drastique, il l'emmène à Hawaï, il le met au pied d'une montagne, il lui dit monte. Mm-hmm. Là, Brian Wilson, il dit mais c'est impossible, je vais jamais arriver. Il fait 5 mètres, il s'arrête. Et là, le psy le regarde et lui dit à la fin, quand on aura fini, tu monteras en haut de la montagne.
Et il l'a monté au haut de la montagne.
Il l'a fait, et il a fini par maigrir énormément, arrêter la drogue, s'assainir. Et donc, il a retrouvé l'inspiration, il a fait un album solo qui avait fait grand bruit.
Alors,
à l'époque.
Ouais, on va y venir. Juste, ce mec est controversé, parce qu'il a aussi, il s'est déjà fait arnaquer par son père, Brian Wilson.
Là, clairement, il abuse de sa gentillesse et de sa confiance. Mmh. Il est crédité dans les paroles, il touche de l'argent sur les ventes des disques. Enfin, moi, c'est aussi un margoulin.
Mais en même temps.
En même temps, il a sauvé la vie.
Ouais.
Il a sauvé la vie et il l'a remis sur pied et ça lui a permis de tenir jusqu'à hier. C'était vraiment pas.
Enfin, moi, il était toujours avec le même psy depuis.
Non. Au bout d'un moment, le psy est sorti de l'équation. Ouais. Voilà. Et en fait, l'épreuve finale, ça a été de lui confier une voiture, parce qu'il conduisait pas, les clés d'une voiture avec une voiture à Los Angeles. Il a dit, je te retrouve à New York, tu te débrouilles. Donc il a dû traverser tout seul les États-Unis.
Pour un mec qui sortait pas de chez lui.
Pour un mec qui sortait pas de chez lui, qui était complètement asocial. C'était une véritable performance quand ils se sont retrouvés à New York et il était guéri.
Il n'y avait pas de téléphone portable, hein, rappelons-le.
Oui, l'aventure. Ouais. L'aventure. Là, t'as ressorti ce numéro, c'est Nos Voisins, Les Inrecuptibles, ce numéro incroyable où il y a Mishka Assayas qui va certainement, je le dis parce qu'il va faire des émissions, je ne suis pas sur Celestial, je ne suis pas sûr, mais sur les Beach Boys.
C'est déjà fait, je crois. Hein,
c'est possible, mais sur Brian Wilson, c'est sûr qu'il va. Il l'a rencontré, donc tout va bien, je rends hommage à Mishka Assayas. Dans Les Inrecuptibles, cette interview incroyable où il retrouve Brian Wilson au début des années 90, elle est monumentale.
Hein, c'est postérieur donc au psy. C'est vraiment la relance en carrière solo.
Mais c'est ça. Fin 80, il sort un album solo et d'ailleurs, c'est la même année que Lou Reed, New York. Enfin, il y a un petit retour de vieux qui ont bien dépéri dans les années 80 et qui se reprennent après. Ça sera pas au niveau de ce qu'on a entendu des Beach Boys, mais c'est quand même vraiment vachement bien. Donc écoutons ce Love and Money.
Merci.
Là, oui, parce que ce Love and Money, j'aurais trouvé ça un petit peu triste.
Ça, c'est le psy qui a
la version du psy. Mais Love and Mercy, c'est Brian Wilson à la fin des années 80. I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. All the violence that occurred seemed like we never you
Nova Club.
Qui n'existe plus.
Mais l'album s'appelle, l'album est quand même sous le nom de Sly and the Family Stone, parce qu'il a gardé le nom.
Ouais.
Mais en effet, il n'y avait plus personne du groupe, quoi. Et c'est même pas lui qui produit, tu vois. C'est un mec qui s'appelle Mark Davis, que je connais pas,
mm-hmm.
qui était sans doute très sympa à l'époque. Et l'album date de 79. Et ça fait partie de ses albums, si tu veux. C'est les vrais fans vont dire que le dernier album vraiment des pur jus de Sly and the Family Stone, c'est Fresh en 74.
Mm-hmm.
C'est cette fameuse pochette où il est en l'air, où il a le pied
génial,
levé.
Génial pochette. Ouais. Photo de Richard Avedon, je crois. Hein.
Ouais, okay. Exactement. Et t'as notamment un super morceau que vous jouez souvent qui est le dernier. Bref, peu importe.
Ouais.
Je vous le dirai après.
If you want me to stay.
Génial, merci ouais. Marc. Voilà. Mais voilà, pour les fans, genre c'est fini. Il y a plein d'albums qui suivent avec lui en avant à chaque fois, vu que les autres membres sont plus là. Et moi, je trouve qu'il y a quand même toujours quelques petites perles.
Chose à aller chercher.
Voilà, notamment cet album de 79 avec le morceau qu'on a écouté qui s'appelle Remember Who You Are, qui ouvre cet album qui s'appelle Back on the Right Track, si tu veux. À chaque fois, il revenait. Il y avait un espèce de moment où il disparaissait de 3 ans.
Track, ouais.
Et genre, bon, bah, ça y est, je suis clean, je reviens et jusqu'à la prochaine.
Pas vrai.
Ce qui n'est pas vrai.
Y a quand même, on a mis des points communs et les deux ont fait
et
des.
Et pardon, et ce morceau qu'on a écouté a été samplé par notamment Triple Quest. Je voulais le rappeler.
Il y a des points communs, on les a dit. Il y a un truc qui a une différence. Les deux sont tombés dans la drogue. Vous avez compris que les années 70-80, tout ça, c'était compliqué.
En fait, c'était des génies incompris aussi, quoi.
Oui, mais il y a quand même une nuance. C'est que Brian Wilson est resté quand même. Il vivait chez lui, il était millionnaire. Alors que Sly Stone, ça devient devient très très dur.
Oui, parce qu'à cause de la dope, il a dû vendre ses droits. Enfin, il a pas mal, ouais, ses droits d'auteur ont pas mal été fumés. Il y a eu une espèce de réveil du de sursaut du phénix grâce au hip hop justement, mm-hmm. au sample. LL Cool J dont on a parlé, tu vois, le podcast dont je viens de parler, etc., etc. Et puis l'inspiration. Enfin, on a parlé d'Outkast.
Oui, mais il vivait dans une caravane.
Mais il vivait dans une caravane avec ses enfants qui étaient pas trop loin aussi.
Ce qui paraît dingue parce que les droits d'auteur devraient être colossaux normalement.
Ah bah oui. Mmh. Surtout pour un mec qui était vraiment une icône. Mmh. Voilà, en 69, c'était vraiment un des mecs les plus connus des États-Unis.
On va dire quand même qu'il a une fin de vie plus heureuse parce que depuis 2019, il avait enfin arrêté. Ça paraît dingue. Il avait enfin arrêté la drogue. Et
non, mais il a une liste incalculable de détentions pour possession de produits en tout genre, quoi. Il a été arrêté. Enfin, George Clinton en parle en rigolant parce que voilà, c'était des potes de crack en fait. C'était des craquettes.
Il est mort plus heureux que dans une caravane. Ouais. Quoi. C'est déjà ça qu'on peut dire.
Il est mort en famille en tout cas. Mm. Ses enfants qui l'ont jamais connu ont pu vivre ces derniers instants avec leurs petits enfants et tout.
Ouais, quant à Brian Wilson, il a continué à être là. Il a fait un hommage à Gershwin notamment. C'est un disque assez connu, quoi.
Il a enregistré pas mal d'albums dans les années 2000. Mm. Régulièrement, il y en avait un. Sa voix s'abîmait quand même avec le temps. Moi, je l'ai vu deux fois à Paris en concert, une fois pour Pet Sounds et l'autre pour Smile. Il était quand même assez passif, on va dire.